Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la mémoire. Bonjour Françoise Hildesheimer.
Bonjour Anne.
C'est toujours un très grand plaisir de vous recevoir et comme je vous l'ai dit en vous accueillant à Radio Courtoisie, vous avez de bonnes idées quand vous sortez un livre, je me dis... Super, je vais pouvoir recevoir Françoise Hildesheimer. Et vous savez que je vous cite très souvent parce que vous avez dit un jour à ce micro, en parlant de Louis XIII, que quand vous écriviez sur lui, vous vous réveilliez le matin en vous disant « Jamais je ne saurais ce que c'est que de me réveiller en étant le roi très chrétien ». Et pour moi, c'est une phrase merveilleuse parce que elle évite ce mot que je n'aime pas, d'anachronisme, parce que je trouve qu'on fait inévitablement de l'anachronisme, c'est normal quand vous êtes un être du 21e siècle et que vous parlez d'un être du 15e ou du 13e ou du 17e, on fait forcément de l'anachronisme. Mais en revanche, c'est l'humilité de l'historien qui sait se dire que malgré tous ses efforts, il n'arrivera jamais à comprendre pleinement son personnage. Ça, pour moi, ça m'a marqué et ça reste une phrase qui sonne dans ma tête à chaque fois que je parle d'histoire.
Alors, si vous permettez, je vais vous en donner une autre. Ça fait peut-être maintenant un demi-siècle que je fréquente un certain cardinal dont on va parler. Je serais incapable de vous dire ce qu'il pensait.
Eh oui.
Je sais ce qu'il a fait, mais ce qu'il pensait, on n'a pas le moyen d'atteindre. Et je pense que de toute façon, il faut se faire une raison. La psychologie telle qu'on la veut aujourd'hui, qu'on la conçoit, elle a commencé à être perçue au XVIIIe siècle. Avant, il n'y a pas.
Donc, bien sûr, bien sûr. Et encore moins chez les historiens et dans leurs écrits. On considère à peu près peut-être la biographie de Marie-Antoinette par Stéphane Zweig comme étant
le début d'un essai. Mais avant, on n'a pas de source.
C'est ça.
Donc, on fantasme. Mm. Et ceux qui ont essayé, ou celles qui ont essayé de faire de la psychanalyse à propos de Richelieu... Alors, vous ne voulez pas que j'emploie le mot anachronisme,
c'est... Ce n'est pas que je ne veux pas,
non,
c'est
non,
que
mais c'est...
Je trouve qu'il est...
C'est même pas ça, c'est... On est hors sujet.
Oui, c'est ça. Je trouve que c'est excessivement reproché parfois aux historiens. Parce que, inévitablement, on fait de l'anachronisme. C'est comme M. Jourdain,
on essaie de donner des éléments de compréhension.
Bien sûr. Alors, Françoise Hildesheimer, justement, vous êtes archiviste, vous êtes historienne, vous avez été conservateur général du patrimoine aux Archives nationales, vous avez enseigné, et vous avez, comme vous l'avez dit, passé quasiment un demi-siècle à vous intéresser au cardinal de Richelieu et à son quasi-jumeau, bien que les deux personnages soient fort différents, qu'était Louis XIII, deux hommes qui ont trouvé moyen de mourir en plus à 6 mois d'écart.
Exactement.
Et là, vous revenez vers nous avec un livre publié aux éditions du Nouveau Monde qui s'intitule « Richelieu et l'histoire » avec un grand H. Et qui est un inédit, hein, bien sûr, et qui est, je vais vous laisser le résumer, parce que c'est une descente au plus profond de ce que l'on peut essayer de connaître de nos jours sur ce personnage.
Alors, le problème, c'est que ce petit livre, c'est pour prendre congé de Richelieu, je pense. Enfin, on ne divorce pas facilement avec ce cardinal, mais... quand vous faites une biographie, on reparlera des biographies, vous êtes obligé de mettre un chapitre source, mais vous ne pouvez pas le développer sur... Et c'est ce qui manque à toute biographie de Richelieu, parce que ce que l'on sait de Richelieu, eh bien, c'est dans les sources que lui-même nous a léguées. Et c'est très compliqué d'ailleurs de démêler. Faire une biographie de Louis XIII... C'est très tentant. Vous le faites à travers les sources de Richelieu. Louis XIII ne nous a pas laissé grand-chose. Et somme toute, l'histoire, elle appartient au vainqueur. Et Richelieu, là, il a beaucoup mieux réussi que Napoléon. Parce que Napoléon s'est mis à écrire son histoire. Mais une fois qu'il a été en position de vaincu, Richelieu l'a fait au pouvoir... et a imposé durablement sa version. Ça, c'est un vrai chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il voulait réellement, ce faisant ? C'est difficile à dire. Mmh. Mais il avait bien un grand et les historiens lui ont bien prêté un grand dessin.
Bien sûr. Alors, ce qui est assez sympathique dans votre ouvrage, Françoise-Hilde Chameur, et ceux qui vous connaissent savent que vous n'êtes pas quelqu'un de très conformiste, aussi sérieuse que vous êtes.
Merci.
oui, oui, c'est un compliment, c'est comme ça que je l'entends. Mais vous vous êtes un petit peu extrait de conventions, de façon d'écrire un livre, et il manque peut-être que des petites illustrations par-ci, par-là, pour que la chose soit complète, mais vous alternez votre récit avec de temps en temps une bibliographie, des sources exhaustives.
J'ai essayé d'être utile
aussi.
C'est ça,
exactement. Et en fait, on vous suit dans une réflexion qui vise à nous faire comprendre comment le personnage s'est construit, qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui, comment l'histoire postérieure s'est emparée de lui et comment finalement chaque historien, chaque période, chaque siècle a fait ou a pointé son regard sur telle ou telle facette du personnage.
Oui, tout en restant toujours à l'homme rouge de Philippe de Champaigne.
C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, vous dites quelque chose, alors on va peut-être commencer par là finalement, puisqu'on parle des illustrations. Vous dites que c'est la première fois qu'un personnage qui n'est pas un roi est portraituré en plein pied.
Exactement. Le portrait du cardinal, il est à son bureau. On a d'ailleurs Richelieu dans cette situation. On a Mazarin très classiquement. Là, il est en position royale. Il est en position royale, c'est quasiment un crime de lèse-majesté, sauf que pour parer l'accusation, il s'est toujours soucié d'avoir en pendant le portrait du roi. Mais il y a quand même, on voit bien qu'il y a un dessin visuel qui était d'ailleurs représenté dans le château de Richelieu. On a les deux statues, et ça va même que si sur la porte d'entrée du château de Richelieu, il y avait une immense renommée, et cette renommée, elle avait deux trompettes doubles, une pour le cardinal, mais aussi une pour le roi. Et à Richelieu, tout était double.
Eh oui. Et Louis XIII avait donné, il fallait l'accord du roi pour qu'un personnage se fasse portraiturer de cette façon.
Ce qu'ils se sont dit, je n'en sais rien. Ce qu'il en a pensé, on ne le sait pas. Mais enfin, il l'a accepté, forcément.
Eh oui, et Philippe de Champaigne a pris ce droit. Oui, et quand on rentre, on connaît tous ce portrait de Philippe de Champaigne. Notamment, il y en a un à la National Galerie.
C'est extraordinaire.
Que on voit que lui, on a presque l'impression qu'il...
C'était quand même fait pour... des raisons commerciales, c'était un peu un catalogue pour Philippe de Champaigne. Les gens qui voulaient une reproduction choisissaient le profil qu'ils voulaient ou de face.
Ah oui.
Mais c'est saisissant.
Ah oui, effectivement. Alors, je me suis amusée pour démarrer peut-être cette émission, Françoise-Hilde Chameur, à mettre un petit coup de stabilo à la fin de votre ouvrage où vous donnez... tous les qualificatifs qui, au cours des siècles, ont été ceux qui ont été donnés à Richelieu. Et c'est amusant parce que chacun d'entre eux, on se dit « Ah bah oui, à chaque fois que j'en lisais un, je me dis « Ah bah oui, bien sûr, ah bah oui ». Donc, surhumaine puissance de travail. Produit ou réalisé l'extension du royaume, abaissement des grands seigneurs féodaux, décennies de guerre, montée inouïe du fisc étatique,
oui.
Évolution centralisée et autoritaire du pouvoir souverain, enrichissement prodigieux.
Il y a eu mieux après.
Ouais. Centralisateur autoritaire, précurseur inconscient des Jacobins, homme de la patrie en danger, champion des frontières naturelles, laïcisateur de la diplomatie, précurseur de l'aventure coloniale, artisan de l'autorité de l'État, le plus grand ministre qu'ait jamais eu notre pays. Succession de qualificatifs.
On peut le mettre à toutes les sauces.
C'est ça, c'est vraiment incroyable. Et comme vous le dites, il a été magnifié par l'histoire.
C'est le produit de notre imaginaire, parce qu'on lui attribue ce qui nous paraît le plus prestigieux à l'époque où on écrit.
C'est sûr. Alors, si on part du départ, hein, comme diraient les enfants, commençons du commencement. Les sources sur lesquelles les historiens et vous-même avez travaillé, parce que je ne vais peut-être pas citer tous les livres que vous avez consacrés à Richelieu, mais ils sont nombreux. Vous avez étudié aussi les relations entre les deux hommes. Les sources, on est surpris quand on vous lit d'apprendre d'abord qu'on ne sait rien de l'écriture de Richelieu.
Ah non, c'est extraordinaire. Et ça peut même faire un fil d'Ariane assez rigolo. Mmh. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un érudit a dit « ça y est, je tiens une phrase », c'est lui. Mais très rapidement après, ben non, c'est pas lui. Et il y a même une phrase extraordinaire dans laquelle je ne sais plus à qui il écrit, mais il dit « je fais signer Charpentier ». Charpentier, Denis Charpentier, son secrétaire, pour que ça ait l'air plus vrai.
Oui.
Donc, on ne sait pas.
On a tous fait ça, signer à la place de nos parents un mot d'absence, en persuadé que la signature était tout à fait semblable. Oui. Mais alors, est-ce que c'est exceptionnel ou bien on peut dire la même chose d'un Louis XIII
Il faut surtout se garder, j'allais dire, d'un anachronisme, d'une mauvaise perception, qui est de voir Richelieu, qui a quand même été auteur d'un tas de domaines littéraires, historiques, théologiques, de le voir comme le 19e siècle nous a présenté l'auteur et son génie, la plume à la main, en train d'écrire nuit et jour. Ce n'était pas du tout ça à l'époque. Richelieu était entouré d'un extraordinaire cabinet, de gens qui travaillaient pour lui, qui écrivaient pour lui, nuit et jour hein, d'ailleurs, et qui donc tenaient la plume. Lui, il donnait les idées. Et si vous lisez attentivement, quand vous êtes familier avec le Testament politique, qui est quand même son grand œuvre, vous voyez les endroits où il a mis la main à la pâte. Il y a des phrases qui sont extraordinaires, qui se poursuivent telles quelles depuis son premier grand texte, qui est son discours de député du clergé aux États généraux de 1614. C'est donc avant qu'il soit au pouvoir. Et on retrouve la même phrase jusqu'à sa mort dans le testament politique. La même phrase. On en retrouve des extraits dans la correspondance et également dans sa pièce où il exprime il fait exprimer son dessein politique Europe. Il y a des phrases qui sont telles quelles. Donc on le voit tenant la plume à travers les autres, mais surveillant de près. Et puis alors, dans le testament politique, vous avez des chapitres techniques où vous dites ça, c'est d'autres qui l'ont fait. Mais alors, on voit vraiment les endroits qui étaient importants.
Oui, ce qui veut dire... quoi exactement, Françoise-Yves de Chameur ? Est-ce qu'il faisait des fiches pour alimenter justement les écrits que ceux qui travaillaient pour lui allaient faire ? Est-ce qu'il dictait ?
Alors attendez, il y a plein de choses. Quelqu'un dont on reparlera, qui a été un des grands découvreurs de ces travaux de Richelieu, c'est Gabriel Anotto, et qui a commencé par publier des maximes d'État. Il a trouvé un manuscrit et on s'est aperçu que c'était simplement un travail de son cabinet où on se préoccupait d'extraire des auteurs les plus célèbres des citations qu'on pouvait replacer à volonté. Et quand on les regarde, alors, bon, on a beaucoup crié au miracle, génie supérieur du cardinal, formidable. Quand vous les regardez de près, c'est des lieux communs. C'est des lieux communs, mais il y a une fonction politique évidente du lieu commun. S'il est bien placé, il est utile. Donc, on avait à portée de la main des matériaux. Et lui, alors, il y a aussi autre chose qui montre, si on cherche comment voir ce qu'il faisait, les ouvrages qu'il a objectivement publié sous sa signature et revendiqué, c'est de la théologie, de la pastorale et de la... pour convertir les protestants. Et il a publié un traité de la perfection du chrétien. C'est un genre à la mode. Et vous pouvez le lire, vous en sortirez avec plein de bonnes idées. C'est tout à fait dans un français très clair. Et il y a quelque chose qui est très amusant. Il y a des moments où il passe au jeu. Et quand on met à la suite, on a une idée de ce qu'il voulait faire. On s'aperçoit qu'il écrivait pour se persuader que dans les deux aspects possibles de la vie active ou la vie contemplative, il était de bon ton de dire que la vie contemplative était très supérieure et qu'on irait au paradis beaucoup plus vite après avoir beaucoup contemplé, tandis qu'en se salissant les mains dans la politique, c'était pas terrible pour aller très haut. Mais subitement, il y a une phrase où il dit « Je ne puis que je ne dis que ceux qui sont comme moi dans les affaires vous diront que c'est souvent beaucoup plus méritoire et beaucoup plus difficile, cette vie. » Donc là, on voit très bien quel était son but. Et là, il y a vraiment quelque chose de personnel. Mais c'est très rare. C'est... Le testament politique, bon, c'est ses idées, mais c'est pour le roi. La correspondance, c'est une correspondance administrative. Il n'y a pas d'état d'âme. Enfin... On est très loin de l'histoire de ma vie de George Sand.
Oui, bien sûr. Oui. Alors après, on peut arguer que finalement, l'essentiel, c'est que ceux qui travaillent pour lui soient capables de comprendre les subtilités de sa pensée.
Et de mettre la phrase au bon moment.
Et que lui, effectivement, n'a pas le temps de...
Mais ça, c'était le propre de tous les politiques de l'époque.
Oui, bien sûr, oui. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant de voir qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'écrit dans
personnel.
Disons, oui. C'est ça. Oui, c'est quand même
l'intime, c'est pas son problème.
Oui. Et alors, quand il écrit ou quand il dicte, il n'a laissé ou une correspondance de lettres. On n'a aucune trace de quelque chose écrit vraiment par lui-même.
Pas que je sais. Possible, mais pas certain. Alors, une anecdote dit quand même quelque chose d'intéressant sur son goût de l'écriture. C'est un jour, on lui pose cette question, éminence, à quoi prenez-vous le plus de plaisir dans la vie ? En sous-entendant, c'est à gérer les grandes affaires de l'État. Et on sait que Richelieu, c'est Boisrobert qui nous le rapporte, Richelieu répond, oh, point du tout, c'est à faire des vers. Et ce qu'il aurait aimé, c'est une gloire d'auteur littéraire.
Et on n'en a pas de ces vers ?
Il y a, dans Europe, par exemple, il y a des vers qui sont de lui, ça c'est certain, d'ailleurs, parce qu'on retrouve des phrases. Mais, en général, il y avait 5 auteurs pour...
Oui, bien sûr, oui. Et Europe, c'est une pièce qui a été jouée
Qui a été jouée récemment.
Même récemment,
Elle a été remise en scène et jouée il y a... une vingtaine d'années encore, et ça tient très bien la route.
D'accord. Et le propos ?
Et le propos, c'est de démontrer que l'Europe a tout à gagner à se soumettre à un certain Francion et a tout à craindre de perfide Albion et de l'Espagne aussi. C'est une pièce très politique sur les et qui peut être rejouée. Il n'y a pas besoin de remettre en français moderne. C'est ça qui est merveilleux avec Richelieu, c'est que sa langue, elle est totalement moderne, tandis que vous prenez, je ne sais pas, Bérulle ou le père Joseph, vous n'y comprenez pas grand-chose. Mm-hmm. Là, il y a une espèce de basculement du langage, et le langage, c'est quand même très important, dans la modernité de l'expression.
Oui, bien sûr. Et vous l'attribuez à quoi, cette évolution ?
C'est une question de génération, c'est...
Oui. Et vous pensez que ça n'est pas propre à Richelieu ?
Non, on bascule.
On est dans une bascule.
Le premier XVIIe siècle, on bascule dans quelque chose de nouveau et... Mmh. Et son intérêt pour la langue, bon, l'Académie française, on le sait, il avait compris qu'il y avait un enjeu.
Oui. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, je reçois avec beaucoup de plaisir. Françoise Hildesheimer, archiviste, historienne, spécialiste de Richelieu, de Louis XIII, et qui publie un petit inédit, très facile à lire, très facile à emporter dans son sac à main ou dans sa main tout court, Richelieu et l'Histoire, aux éditions du Nouveau Monde. On peut peut-être, Françoise Hildesheimer, pour les auditeurs, tout le monde connaît Richelieu, mais quand même, revenir quelque peu sur une courte biographie, d'abord redonner quelques dates, 1585-1642, donc c'est vraiment un homme du XVIIe, hein, de la première moitié du XVIIe siècle. Une chose m'a frappée, et je voulais vous en parler, c'est cette histoire de l'évêché de Luçon. Comment une famille pouvait conserver pendant 20 ans un évêché sans... titulaire, enfin...
Ah ben, on nommait un homme de paille qui percevait et puis qui vous rétrocédait les revenus. Mais là, ça a été un peu long et...
Mais un homme de paille qui était un évêque, qui avait rang d'évêque, quoi.
Qui avait rang d'évêque, oui. D'accord. Mais qui n'appartenait pas à la famille prestigieuse. Enfin bon, on trouvait des accommodements.
Oui, d'accord.
Et l'évêché de Luçon, c'était une pièce essentielle de la fortune de la famille. Donc, il fallait à tout prix la conserver. C'est d'ailleurs comme ça que Richelieu s'est trouvé évêque. Mmh. Et l'évêché était soi-disant crotté. C'est comme ça qu'il l'aura stigmatisé pour l'éternité. On s'aperçoit qu'il était dans une norme très correcte de revenus.
Et oui. Mais donc, là aussi, je pense que beaucoup de travaux ont permis quand même de montrer que la vocation de Richelieu, enfin, c'est rester un homme d'église tout
de
même.
Alors, on va faire sa biographie en mettant à mal les idées reçues.
Allez-y.
Richelieu, homme de petite noblesse. Pas du tout. Son père était grand prévôt de France. La famille, si son frère avait vécu, il aurait fait une grande carrière à la cour. Et Richelieu était un cadet. Qu'est-ce qu'il y a un cadet de la noblesse? Qu'est-ce qui lui restait? C'était de la carrière des armes. On lui aurait donné un régiment. Chance, c'est que son frère aîné est mort en duel. Et son second frère, à qui la carrière ecclésiastique devait échoir, s'est découvert une vocation monastique et est entré chez les Chartreux. Évêque, pas question. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, notre Armand, qui était plus jeune? Virage à 180 degrés, l'homme de guerre devient homme d'église. Alors, autre idée reçue, c'est un ambitieux qui n'a aucune vocation religieuse. Là encore, il faut se remettre dans l'esprit du temps. J'allais dire, c'était une carrière tout à fait ordinaire pour arriver à la politique. Il n'y a pas de dessein machiavélique. Et Richelieu a été un fort bon évêque de Luçon. Il n'est pas resté très très longtemps, mais il a été un évêque tout à fait soucieux d'introduire en France les décrets du Concile de Trente. Et le premier séminaire pour les prêtres, il n'a pas duré longtemps, mais c'est lui qui l'a créé à Luçon. Donc, il s'est vraiment soucié de son évêché. Mais quand même, tout de suite, on l'a remarqué pour ses talents politiques. Et donc, pas un intrigant. Et toute sa vie, il a continué à faire œuvre de théologien. Enfin, au moment dramatique où les impériaux vont envahir la France et menacer Paris, il est en train d'écrire une méthode pour convertir les protestants. Une méthode qui a à peu près 600 pages et dont il manque encore quelques chapitres. Donc, il s'est toujours soucié de ça et ça a été... autant un cardinal qu'un ministre, il faut... Alors, le XIXe siècle en a fait, évidemment, le modèle du politique dans l'esprit du temps. Bon, au XXe, on est revenu, peut-être même des fois un peu trop, mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne, et c'était normal, les évêques avaient, a fortiori les cardinaux, avaient vocation à exercer des fonctions politiques. Et son grand modèle, il a deux modèles, Richelieu, on le voit, c'est Georges d'Amboise, sous Louis XII, et plus récemment, le cardinal du Perron. C'est ses modèles, et c'est ça qu'il va... Donc, il accède au pouvoir par Marie de Médicis, après la mort d'Henri IV, et il va, son problème, ça va être de se conforter au pouvoir. Ça n'a pas été une ascension irrésistible par la seule force de son génie. Une grande partie de sa vie s'est déroulée à essayer d'y arriver.
Oui, on sent bien que les conflits internes et les conflits de personnes prennent une part...
Il devient secrétaire d'État. Premier scandale, d'ailleurs. Il est secrétaire d'État aux affaires étrangères et à la guerre. Un ecclésiastique, théoriquement, ne doit pas exercer ce genre de charge, puisqu'il s'agit de faire couler du sang humain. Mais enfin, bon, ça ne le dérange pas. Mais gouvernement Concini. Donc, il n'est pas dans les petits papiers de Louis XIII. Et tout son problème à la chute de Concini, ça va être de passer du statut de créature de Marie de Médicis à celui de Louis XIII. Et c'est un gros problème. On le lui a reproché toute sa carrière, à tel point que dans son testament, le vrai testament, pas le testament politique, la seule vraie clause de conscience, hein, tout le reste, après, c'est des évolutions de charges, de titres, mais il dit « Je tiens à dire que, contrairement à ce qu'on a dit, je n'ai jamais trahi ma protectrice. » Et ça, on le lui a reproché. Donc, il a tenu jusqu'à la fin à se laver de cette accusation. Donc, il arrive quand même, malgré tout, au pouvoir, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a que lui qui peut essayer, qui est assez malin pour pacifier les choses. Il réconcilie un temps la mère et le fils. Il parvient au pouvoir en 1624. Alors, c'est vrai qu'on va beaucoup parler de Richelieu dans les années qui viennent, puisqu'on arrive dans les années de quatrième centenaire et jusqu'en 1942, on va en avoir tous les ans. Donc, il arrive au pouvoir en 1624. Le roi, un peu contraint et forcé, l'admet à son conseil. Il rentre au conseil, au bout de quelques semaines, il en est le chef. Et va se mettre en place petit à petit ce qu'on a appelé le système du ministériat qui unit le cardinal, puisqu'il devient laborieusement d'ailleurs, il conquiert la place de cardinal, et Louis XIII va former une association qui va être sanctionnée. Alors à un moment qui me réjouit beaucoup parce que c'est le moment clé du règne sur lequel on ne sait rien, c'est la fameuse journée des dupes.
Alors, c'est une grosse partie de votre livre. C'est passionnant. Vous l'étudiez.
C'est passionnant, c'est amusant aussi.
Oui, 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 bien sûr. Oui, mais vous l'étudiez vraiment ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, mais qu'on dit quand même.
Alors, première chose, vous ne pouvez pas écrire une biographie de Richelieu sans raconter la journée des dupes. Alors, la journée des dupes, rapidement, c'est une journée au cours de laquelle Marie de Médicis, qui est furieuse parce qu'au lieu de promouvoir la politique catholique qu'elle souhaite, qui passe par une alliance avec l'Espagne, Richelieu cherche, après la prise de La Rochelle, où il s'est comporté en très bon catholique face aux Huguenots, cherche à entraîner Louis XIII dans la guerre contre l'empereur très catholique, et l'Espagne. Donc elle est furieuse. Elle convoque son fils, ça se passe au Luxembourg, dans son palais du Luxembourg, et le somme de choisir entre elle et son ministre. Bon, alors c'est soi-disant une scène très orageuse, Richelieu profite d'une porte pas fermée, enfin il connaît très bien les lieux pour intervenir, il se fait copieusement engueuler, et il doit se retirer, il est désespéré, et il n'a qu'une idée, parce que là... pas un optimiste, hein, Richelieu, quand même, si je peux faire un peu de psychologie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il a très envie de... Il propose toujours sa démission. Alors, c'est un moyen de chantage aussi, mais le soir même, le roi le convoque, qui est parti à Versailles. Et, contrairement à ce que les courtisans, les dupes, pensaient, il lui dit, mon cher ami, c'est votre politique que je choisis, ma mère, on va la mettre de côté. Donc, c'est 1630, le grand tournant du règne. Et ensuite, chose étonnante, donc Louis XIII s'est rallié à ce ministre qu'il n'aime pas beaucoup parce que, je pense qu'il a compris que c'était la politique. S'il voulait affirmer sa gloire, il n'y avait pas d'autre voie. Et chose alors absolument aussi scandaleuse, qu'est-ce que fait ce cardinal de la Sainte Église romaine qui a vaillamment combattu les protestants en France? Eh bien, il engage la France dans une voie d'alliance avec les puissances protestantes à l'extérieur. Ça, c'est un des grands mystères aussi, j'allais dire, de la conscience de Louis XIII, qui est sans doute le roi le plus dévot que la France ait eu, et qui n'a pas hésité sur ce point.
Il faut dire que c'était quand même les deux grands combats, on va, pour simplifier, du cardinal qui était abattre ou abaisser en tout cas l'Espagne, ouais. Et en même temps réduire la réforme, enfin les prétendus réformés. Là, c'est pas très compatible. Hein.
Voilà. Ouais. Et donc, dernière partie, Louis XIII va le suivre. Et alors, il va mourir dans son lit, Richelieu, malgré tous les complots, conjurations. Ça a failli se terminer mal avec la fameuse affaire Saint-Marc. Mais, et dernière idée reçue à combattre, Mazarin. On nous dit que c'est Richelieu qui a imposé Mazarin. C'est pas totalement vrai. Bon, Richelieu a tout de suite compris les possibilités, l'étoffe politique de Mazarin. Mais Louis XIII l'a très bien compris aussi. Et au moment, justement, de l'affaire Saint-Marc, où il a failli y avoir rupture entre Richelieu et Louis XIII, Louis XIII a choisi de prendre Mazarin comme interlocuteur. Donc, c'est lui qui a... Et, dernière chose, Louis XIII, marionnette entre les mains de Richelieu, c'est totalement faux, il faut l'affirmer. Et c'est important parce que Louis XIII a été un grand roi. Le décideur, ça a toujours été lui. Et il a pleinement assumé la politique qui lui a été proposée, à tel point qu'au soir de la mort de Richelieu, tout le monde croit que cette politique de guerre, la guerre va s'arrêter et que le roi va conclure la paix. Que fait Louis XIII? Il convoque Mazarin le lendemain au Conseil. Et il affirme qu'on va continuer jusqu'à la paix de Westphalie et à la paix des Pyrénées. Il va jusqu'au bout. Et même dans certaines négociations, on a le sentiment, voire la certitude, que le roi est encore plus dur dans ces conditions que ne l'est Richelieu. Donc il faut vraiment restituer sa place à Louis XIIII, qui, s'il ne nous a pas laissé beaucoup de sources, est vraiment quand même aux commandes.
Oui, vous qui avez travaillé, Françoise Hildesheimer, sur ces deux personnages, qui avaient écrit La double mort du roi, on sent quand même que, alors, c'est peut-être un peu idiot et exagéré de dire ça, le grand homme, c'est quand même Louis XIII.
C'est le roi.
C'est le roi, c'est ça.
Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Donc, le roi, il est intimement persuadé, il sait qu'il est le représentant de Dieu, donc... C'est ce que vous disiez, ça doit être lourd à porter, mais c'est comme ça. Et Richelieu devait de temps à autre se dire qu'il était peut-être plus brillant, plus meilleur orateur. Hein. Louis XIII était bègue, donc ça ne simplifiait pas les choses. Mais le roi était le représentant de Dieu et jamais il n'aurait envisagé de prendre sa place.
Alors, je rappelle aux auditeurs que je reçois Françoise Hildesheimer pour son livre « Richelieu et l'histoire » aux éditions du Nouveau Monde et que nous essayons justement avec elle de montrer à nos auditeurs la façon avec laquelle l'histoire a accompagné ou recréé ce personnage qu'est Richelieu et qui reste peut-être aux côtés de Napoléon, de Charlemagne, du général de Gaulle, ensuite le grand personnage.
En tous les cas, c'est ceux dont les lecteurs achètent les biographies.
Ah oui.
Vous avez fait le palmarès, rajoutez Marie-Antoinette, bien sûr.
Bien sûr.
Mais
il y a un très net
clivage.
Bien sûr, et puis il y a un exemple beaucoup plus récent qui nous montre tout de même l'importance de ce personnage. Alors bien sûr, nous sommes en 2026 et on célèbre le 400e anniversaire de la création de la marine pour laquelle Richelieu n'est pas étranger. Mais rappelons à nos auditeurs que le porte-avions de nouvelle génération, parmi les noms proposés, il y avait Richelieu, et que le Charles de Gaulle s'est appelé un temps Richelieu, avant finalement que le président de la République choisisse de le baptiser finalement Charles de Gaulle. Donc c'est dire quand même combien le personnage compte.
Et combien Colbert s'est prévalu de ce prédécesseur pour justifier sa politique, notamment maritime.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Je m'entretiens avec Françoise Hildesheimer, qui elle aussi sait que la liberté, ça n'a pas de prix. Dans votre carrière, vous l'avez montré, chère Françoise, il ne faut pas croire que le monde de la conservation, le monde de l'écriture, le monde de l'histoire sont un long fleuve tranquille.
Non, mais qu'il faut aussi respecter ses contraintes.
C'est ça, exactement. Et s'épanouir dans la réalisation de cette vocation d'historienne. Richelieu et l'histoire aux éditions Nouveau Monde. Parlons peut-être un peu de la marine, justement, puisque alors, ce 400e anniversaire, cette année 1626, on peut véritablement attribuer à Richelieu la création d'une marine française.
Alors non, il y avait une marine. Il a eu une très claire conscience du fait que le sort des armes se déroulait aussi sur la mer et qu'il fallait être puissant. Et alors, c'est dans son testament politique, il y a une série de chapitres sur, dans lesquels il fait le point sur... le sort des armes et l'économie. Il faut être puissant sur la mer. Alors, la seule chose qui devait un peu le gêner, c'est que cette mer, elle n'était vraiment pas du tout rationnelle. Ces tempêtes, tout ça, on pouvait rien dominer. Et ça, il fallait le surmonter, mais c'était un peu gênant. Donc, il a mis en place, mais c'était ruineux, hein, une marine qui est souvent en détournant des vaisseaux de commerce et en les armant de canons. C'est le vrai créateur d'une marine telle qu'on la connaît, c'est Colbert. Mais s'il avait pu, Richelieu, sauf que l'effort de guerre qu'il a imposé au royaume a été au bout des possibilités et que créer une marine, c'était hors des possibilités du temps. Il est arrivé à sa mort, il y a eu des feux de joie dans le royaume tellement il a été pressuré et toutes les révoltes populaires ont montré que... déjà, ce qui avait été fait sur Terre était extraordinaire, mais il a eu claire conscience de ce qu'il fallait faire.
Alors, vous dites que la mer est quelque chose qu'il perturbait parce que ça ne lui répondait pas, en tout cas au doigt et à l'œil. Vous parlez de l'absence des moyens de communication à l'époque de Richelieu, et donc c'est amplifié quand vous êtes sur un vaisseau au large.
Fantasmez un peu. Imaginez Richelieu aujourd'hui. Mais il serait l'homme le plus heureux avec un smartphone, des communications immédiates. Il serait encore plus terrible que Trump. Il harcèlerait ses commandants sur le terrain. Ça serait... c'est ça qui lui a manqué.
C'est ça.
Parce qu'alors on s'aperçoit, c'est terrible pour lui. Enfin, c'est terrible, il n'y avait pas d'autre possibilité, donc il n'en souffrait pas. Mais prenez les batailles qui se déroulaient au centre de l'Europe, la Montagne Blanche ou autre. C'était quand même important de savoir qui avait gagné, catholique ou protestant. Ben, il fallait bien 3 semaines pour qu'on ait une quelconque certitude à Paris de ce qui s'était passé en Bohême. Bon, à partir de ce moment-là, bon, on avait peut-être une dépêche qu'on décryptait, quelques commerçants qui vous donnaient aussi... Bon, c'était sûr, il fallait renvoyer des informations dans l'autre sens. Il fallait les rédiger, les chiffrer, et ça repartait dans l'autre sens, si ce n'était pas intercepté. Donc, même temps encore pour que ça arrive aux diplomates sur place... Et quand eux, ils prenaient connaissance de la dépêche, ben, il était trop tard, la situation avait complètement évolué. C'est comme ça que, l'épisode, on nous parle de la fidélité absolue du père Joseph à Richelieu, ben elle a été jusqu'à accepter d'être désavouée dans des ambassades parce que ben, ce qu'il avait en main n'était plus à jour. Donc c'était un énorme... Bon, c'était la même chose pour tout le monde, mais...
Oui, bien sûr, mais effectivement... alors est-ce que c'est dire cela... accroît encore plus la notion de génie du personnage ou
non,
non
oui, parce que c'était la même chose pour tout le monde en son temps, c'est
bien
pas...
sûr. Oui, oui. Mais... Alors justement, vous parliez de Colbert et de Mazarin. Si on prend ces trois hommes, Richelieu, Mazarin, Colbert, de façon chronologique, qu'est-ce qui va les sortir du lot quand on les étudie, qu'est-ce qui leur donne cette capacité à faire ce que d'autres ne feront pas ou non?
Alors là, vous touchez au mystère. Il y a leur personnalité, l'environnement dans lequel les circonstances dont ils ont su profiter, mais enfin, ça n'a pas toujours été facile. Regardez Mazarin. Et puis, alors je dirais, il y a ça, ce qu'on peut en savoir, hein, on en revient à ce qu'on a dit. Puis il y a aussi en quoi ça nous parle aujourd'hui. Richelieu, je pense qu'à peu près tout le monde, face à un portrait de Philippe de Champaigne, identifie Richelieu. En revanche, Pété Mazarin, on vous dira c'est Richelieu dans beaucoup de cas. Quant à Colbert, il n'y a pas bonne réputation. Il n'a pas bonne réputation, c'est un bourgeois, il n'a pas su se faire sympathique. Ce n'est pas que les autres, mais ça tient à un tas de choses.
Oui, bien sûr, je vous le disais, François.
Et puis Richelieu, il a créé les sources de son ministère et il a réussi à éliminer, parce que les dévots, entre guillemets, dont il a mis à mal la politique... Ils ont essayé d'écrire contre... On en a des traités, mais jamais ils ont réussi à combattre... Il y avait un génie de l'expression, de la propagande. Hein. Il faut des gens... Je pense que c'est vraiment employer ce mot et pas un anachronisme. Mm-hmm. Richelieu n'a jamais rien laissé passer sans y répondre.
Oui.
Contrairement à Mazarin qui... Et ça, je pense que... Il y avait un côté punch qui... Qui a marché.
Oui. Oui, et puis il y a aussi le génie du décideur qui le choisit, qui le maintient.
Tout à fait.
Parce que
et
Louis
qu'il XIII, comprend.
Et qu'il comprend. Louis XIII aurait pu l'abandonner X fois.
X fois, il ne l'a jamais fait.
C'est ça.
Ça a été à moins de... Et on remarque une chose dans les rares annotations qu'on a de Louis XIII. Avant l'accession de Richelieu au pouvoir, il parle de ses états. Bon, c'est normal, c'était là. Au bout de quelques temps de sa collaboration avec Richelieu, on passe au singulier, mon état. Donc on voit qu'il y a bien là une influence de l'un sur l'autre, mais que cette influence, elle est acceptée et que ça correspond à ce que Louis XIII souhaitait. Alors, Louis XIII, effectivement, c'est pas, dans notre imaginaire, c'est pas un roi très glorieux. C'est un malade, mais Richelieu aussi. Et Henri IV et Louis XIV étaient quand même plus brillants. C'est pas de chance d'être entre les deux, mais c'est sûrement quelqu'un de parfaitement estimable et de vraiment conscient de ses devoirs.
Oui, avec tout de même une... enfin, si on mettait justement des cellules psychologiques maintenant, son père est assassiné, il est tout petit.
C'était un choc épouvantable.
Il a un frère qui est quand même pas simple.
Il accumule les handicaps.
C'est ça, oui. Donc, parce que souvent, c'est amusant de voir qu'on met de la psychologie dans certaines choses et puis pas ailleurs.
Oui.
Et donc, Louis XIII...
Non, mais il y a évidemment, là, c'est une évidence. Alors, comment il l'a réellement vécu, il nous en a rien dit, mais...
Bien sûr
que le pauvre gamin, ça n'a pas dû être drôle.
Non, c'est certain. Et puis bon, quand on voit comment son père l'a élevé...
Mais son père, il l'adorait. Hein. Mais imaginez ce pauvre gamin traîné au lit de justice tout de suite après l'assassinat d'Henri IV. C'est épouvantable comme traumatisme.
Bien sûr. Oui, oui, c'est certain. Et puis, on sait qu'il a quand même grandi au milieu de tous les demi-frères et sœurs que son père n'appelait pas des bâtards, mais que Louis XIII voyait quand même d'un mauvais œil.
Certains, pas tous.
Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est quand même un...
Ah ben, c'est pas simple.
Un enfant,
c'est pas simple.
Oui, qui
bon,
est...
Après, sa mère qu'il faut liquider le problème.
C'est sûr.
Et aussi, il a su créer avec Richelieu... On est à l'époque des favoris. Richelieu n'est en rien un favori. Il y a une estime intellectuelle, il n'y a pas d'amitié entre les deux. Ils ont su créer une forme de ministériat. Richelieu est le principal ministre, ce n'est pas le favori. C'est...
Alors, Françoise de Chalmers, dans votre livre Richelieu et l'Histoire, vous consacrez une part non négligeable à l'étude de toutes les biographies consacrées à Richelieu. Et Dieu sait qu'il y en a eu, et très vite, hein, 1660.
Il y en a eu, et la Nouvelle Histoire, récemment, n'aimait pas beaucoup la biographie. Et Richelieu n'a jamais été victime de ce discrédit. Il y a toujours eu des biographies, et il y en aura toujours.
Et alors, elles sont révélatrices, elles aussi, de l'angle par lequel on va s'intéresser au personnage. J'avais noté une de vos phrases qui m'avait particulièrement marquée. Vous dites « Le biographe manie l'image de son temps avec la sûreté de l'information et la méthode de l'historien ». Mais on voit bien, il y a une petite pique et un petit sourire dans cette formulation, parce qu'on sent bien...
Question de bon dosage.
Voilà, c'est ça.
Mais prenez... Bon, il y a quelqu'un dont je voudrais qu'on dise un mot, j'ai évoqué tout à l'heure, Gabriel Annotto. Gabriel Annotto, c'est le grand historien de Richelieu. S'il fallait n'en citer qu'un, c'est à lui que j'accorderais la palme. Il arrive dans une situation extraordinaire pour l'histoire, qui est l'apogée de l'histoire positiviste. Il a tout pour plaire, il est chartiste, il est diplomate, il était ministre des Affaires étrangères, donc il est au niveau de Richelieu. Et c'est un bon historien, il se fait aider d'ailleurs aussi du duc de la Force, mais cette biographie en 5 tomes, c'est un monument. Pour l'établissement des faits, vous ne pouvez pas faire mieux. Or, Gabriel Annotto estime que son génie était politique et il est digne de Richelieu. Et on a une scène absolument... si les auditeurs vont voir sur Internet, on trouve des photos. Donc Richelieu a été enterré, ce qu'on a récupéré de Richelieu a été enterré dans sa chapelle de la Sorbonne. Et voilà que Gabriel Annotto, voir, se met en tête d'exhumer la tête de Richelieu. Il avait déjà dans ses collections un petit doigt de Richelieu, voir la tête de Richelieu. Donc, on est, je crois, dans les années 1890 ou 95, cérémonie mondaine dans la chapelle de la Sorbonne. On convoque la princesse de Monaco, enfin, tous des gens qui s'évanouissent. C'est extraordinaire. Des photographes, évidemment. Donc, on a un reportage. Et on voit sortir d'une caisse une tête toute noircie que Gabriel Annotto se fait photographier en tenant son héros entre ses mains. Il y a une espèce d'identification qui est absolument extraordinaire. Je vous dis, allez voir sur Internet, on a des témoignages. Là, je vais dire, c'est le grand moment de mon personnage. J'en suis l'héritier et je le fais en politique. Ce qui n'empêche que Gabriel Annotto était un excellent historien, que cette biographie, elle fait toujours référence. Et que, bon... donc, question de dosage, de...
Oui, bien sûr, il y a une question de dosage, mais il y a aussi inévitablement le prisme de son temps.
Oui, tout à fait, le prisme de son temps. Et moi, alors, si je réfléchis aujourd'hui, qu'est-ce qui me frappe chez Richelieu ? Mais le prisme de son temps, pourquoi on le célèbre ? Pour avoir imposé la guerre ? Est-ce qu'il y a de quoi être tellement fier de ça ? Bon, mais on ne va pas le remettre en question. C'était comme ça, mais c'est par ça qu'il est le plus célèbre.
Oui, bien sûr, oui. Et voilà. Est-ce que vous pensez le fait que vous soyez une femme, quand on s'intéresse à un homme, ou un homme quand on s'intéresse à une femme, est-ce que
Alors là, je suis content, je dirais, laissant tomber ça. Mais il y a... Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Si vous prenez plusieurs biographies, Richelieu, bon, il s'impose, vous ne vous demandez pas pourquoi on va faire sa biographie. Ensuite, on vous dit Richelieu, la raison, on n'a pas encore parlé, mais la raison d'État, ah ben c'était un disciple de Descartes. Ben non, ça ne marche pas, chronologiquement, ce n'est pas possible. Mais Descartes était un contemporain. C'est intéressant de faire une biographie de Descartes. Non, c'est beaucoup moins intéressant. Descartes était certainement un grand penseur. Humainement, le personnage est moins... Encore qu'il y a tout un côté interprétation des rêves qui est intéressant. Vous évoluez dans le temps. Je parle de ce que j'ai, des personnages que j'ai fréquentés. Vous dites, ah ben tiens, ben, l'abbé Grégoire... Intéressant, l'abbé Grégoire. Beaucoup plus intéressant, mais on est fin 18e siècle. On a beaucoup plus de témoignages sur sa personnalité réelle. On peut lui donner beaucoup plus de chair, beaucoup plus de... C'est autre chose. Et puis, si vous allez jusqu'au bout de ce dont on a parlé ici, si vous les avez amusés à faire des biographies, faites un personnage qui n'a jamais existé. Faites le bon samaritain. Et vous apercevrez que ça marche... Et qu'on arrive aussi à trouver des choses qui comment on dirait, qui matchent avec notre époque.
Mmh. Oui, oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, moi, vous parlez de l'abbé Grégoire, évidemment, je me souviens fort bien de votre livre pour lequel vous êtes venu. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est de voir que rien que de dire abbé Grégoire, c'est déjà prendre position, parce qu'il a été évêque, le brave homme.
Exactement.
Et on le cantonne toujours à son titre d'abbé. Oui.
Et il a mauvaise réputation.
Et il a très mauvaise réputation, bien
alors
sûr.
Alors que c'était quelqu'un de parfaitement
estimable. Oui, oui. Et d'ailleurs, à propos de sémantique, on va dire, le terme même de raison d'État, j'ai beaucoup apprécié ce que vous en disiez, parce que c'est plutôt généralement une acception négative. Et en fait, c'est amusant parce que la raison d'État, elle est plutôt perçue comme s'opposant à la raison.
Oui. C'est ce qu'on doit appliquer quand on est dans une situation qui n'est pas convenable, mais qu'on ne peut pas, pour le moment, changer.
C'est ça.
La raison d'État exige qu'on continue, par exemple, la vénalité des offices, parce qu'on n'a pas l'argent pour les rembourser. Et c'est la grande application. Sinon, la raison, ben, c'est notre raison, Saint Thomas, tout à fait classique.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, est-ce que l'on peut, Françoise Hildesheimer, dans les quelques minutes qui nous restent, essayer tout de même de dégager dans la biographie ou la vie de Richelieu des grandes lignes directives ? Il y a eu donc le problème avec les protestants, le problème avec les espagnols, la santé. Enfin, la création d'un État moderne, est-ce que tout ça, on peut dire, après des siècles de biographes, qu'effectivement, ce sont des grandes lignes dans...
Alors moi, s'il fallait, bon, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais faire court, s'il fallait que je dise, moi, en quoi Richelieu m'apparaît être vraiment intéressant, c'est parce qu'il avait des idées claires.
Ah oui.
Et ça, ça n'a pas de prix en politique. Des idées claires, et on l'a dit, une expression qui allait avec. Et jamais il n'a dévié de ses idées. Le programme qu'il propose en 1614 aux États généraux, le roi étant mineur, c'est le même programme qu'il va lui proposer de continuer à la fin de sa vie. Il n'a jamais eu qu'un unique dessein politique. Et sur le plan religieux, n'oublions pas que c'était un évêque, on lui a prêté grand dessein, abattre les Huguenots, etc. Mais son grand dessein, s'il n'en a eu qu'un, sur le plan religieux, c'était rétablir l'unité de la chrétienté et arrêter le schisme protestant. Ça, ça a été son véritable grand dessein. Et c'est là qu'on voit, cardinal, il a continué à vouloir ça et ministre, affirmé la prépondérance de la France sur la carte de l'Europe. Donc, c'était un dessin très clair et c'est en ça qu'il est fascinant.
Oui, c'est en ça qu'il est un exemple. parce que là, ce que je dis, c'est pas du tout pour critiquer nos hommes politiques, hein, mais c'est vrai que c'est difficile d'être clair, précis, cohérent et de tenir ça sur la durée, parce que vous dites 1614, ça veut donc dire pendant 30 ans.
Alors, j'allais dire qu'il n'a pas douté de sa capacité à le réaliser, si, au soir de la journée des dupes, il était prêt à, à s'en aller. Et au moment du fameux siège de Corbie, où les Espagnols se sont ouverts la voie de Paris, il panique absolument. On sait que le père Joseph le traite de poule mouillée. Et c'est Louis XIII lui-même qui se met à la tête des troupes et qui assure la défense. Donc, idée claire, idée qu'il était capable de le réaliser, mais avec quand même... Richelieu pleurait beaucoup. C'était très lacrymal.
En tout cas, vous ne regrettez pas, Françoise Hildesheimer, d'avoir travaillé sur ce grand homme pendant tant d'années. Et nous vous remercions d'être venu aujourd'hui nous présenter votre dernier ouvrage, Richelieu et l'Histoire, aux éditions du Nouveau Monde. Un livre qui se lit très facilement et passionnant, 160 pages, 150 pages. Donc c'est un petit livre très agréable à tenir dans sa poche. Merci beaucoup, Françoise Hildesheimer.
Eh bien, si je puis me permettre, merci pour votre amitié.
Merci, chers auditeurs de Radio Courtoisie, de nous avoir écoutés et à mardi prochain.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la mémoire, dirigé par Anne Collin, émission préenregistrée le 2 juin 2026 et diffusée pour la première fois le mardi 23 juin 2026 de 10h à 11h, et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un instrument de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.